Si une question dont la réponse étonnera même certains croyants, y a-t-il un danger que la souffrance nous éloigne de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aimerais encourager tous nos auditeurs à bien écouter les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Et peut-être encore plus, tous ceux qui souffrent, soit moralement ou physiquement. Je pense que les réponses qu'on va recevoir de la Bible seront d'un grand encouragement pour vous. Voici nos questions. Quel est le premier endroit où le croyant doit aller pour recevoir la consolation? Pourquoi est-ce que Dieu permet que les croyants souffrent? Comment Dieu veut-il que nous utilisions notre santé, nos richesses, notre jeunesse, nos talents et nos dons? À quoi sert l'adversité dans la vie d'un croyant? Est-ce que Dieu veut qu'on prie pour ceux qui travaillent dans son œuvre? Y a-t-il un danger que la souffrance éloigne le croyant de Dieu? Qu'est-ce que la souffrance nous enseigne? Est-ce que les croyants doivent respecter leurs engagements? Demeurez avec nous. Le grand livre de Dieu va sûrement consoler plusieurs cœurs aujourd'hui, alors que le pasteur Régent Joly va nous enseigner ce qu'il dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à saisir le sens de cette instruction et à mettre en pratique tout ce que Dieu va nous révéler. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à saisir le sens de tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Qu'on le comprenne profondément et qu'on ne l'oublie pas, Seigneur. On veut le mettre en pratique, on veut être fidèle, on veut t'obéir, mon Dieu. Alors aide-nous, enseigne-nous aujourd'hui même. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul avait été appelé par Dieu et il enseignait avec autorité ce que devrait faire tout prédicateur. L'Église appartient à Dieu, et il sauve les croyants par grâce. Non par amour, même si son amour pour eux est infini. La grâce est une faveur imméritée. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous le méritons. Finalement, nous avons vu que Dieu est le Dieu des miséricordes et de la consolation. Cependant, la consolation peut être contrefaite. La consolation est généralement perçue comme étant de la sentimentalité, sucrée à la saccharine et à laquelle on a ajouté un soupçon de faiblesse. La véritable consolation vient du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. Il est le consolateur qui se tient à côté de nous. Le Saint-Esprit ôte notre solitude, soulage nos douleurs et apaise nos craintes. Chers amis, aujourd'hui, nous reprenons notre étude de 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est merveilleux d'avoir un Dieu qui peut et qui veut nous consoler dans nos afflictions, dans toutes nos afflictions. C'est facile d'être consolé lorsque le soleil brille et que quelqu'un nous tape dans le dos pour nous féliciter, nous encourager. Cependant, mes amis, ce que nous avons vraiment besoin, c'est d'un consolateur lorsque nous sommes dans l'affliction. Le christianisme est plus qu'une théorie. Paul fut consolé par Dieu alors qu'il était dans l'affliction. Nous avons besoin d'être assurés de la présence de Dieu dans toutes nos circonstances de notre vie. Surtout lorsque nos besoins sont énormes, que nous sommes seuls et que nous vivons des temps de désespoir. Pour de nombreuses personnes, le christianisme n'est qu'une théorie philosophique. Ce n'est qu'une profession, un vêtement que l'on porte brièvement lors d'occasions spéciales. un rituel stagnant et des mots vides de sens. Mes amis, c'est la façon dont le croyant marche qui prouve la réalité du christianisme. Pour l'apôtre Paul, ce n'était pas qu'une simple théorie. Sa vie était transformée. Versets 5 et 6. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dans cet épître, Paul parle beaucoup des difficultés qu'il a éprouvées, des afflictions qu'il subit présentement, ainsi que la consolation que Dieu lui apporte. Écoutez quelques-unes de ces afflictions. Il va nous les présenter un peu plus tard, 2 Corinthiens chapitre 4. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Quelle espérance! Poursuivons notre lecture, chapitre 1er de 2 Corinthiens, les versets 7 à 10. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Nous voyons ici la raison pour laquelle Dieu permet que les chrétiens éprouvent des souffrances ou qu'ils soient malades. Selon certains érudits, Paul aurait été très malade et il en serait presque mort. Ce serait l'arrêt de mort. Les médecins l'avaient probablement condamné. D'autres pensent que Paul fait allusion à la fois où il a dû faire face à la violence collective d'une foule qui voulait le lapider. Ceci s'est produit à Éphèse. La foule aurait fait de Paul un martyr. Donc, dans ce verset, Paul peut faire allusion à l'un de ces deux épisodes ou, tout simplement, aux deux. Mais Paul affirme que Dieu, qui ressuscite des morts, nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. C'est merveilleux, et nous sommes devant une vérité pratique pour nous aujourd'hui. Dieu permet que nous souffrions afin que nous puissions en consoler d'autres. Dieu permet que les chrétiens souffrent, et il a une excellente raison pour cela. Il a un but merveilleux en vue. Il fait concourir cela au bien des croyants. Les croyants qui ont éprouvé la souffrance sont qualifiés pour consoler ceux qui sont affligés. Tout ce que nous possédons, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu que nous le tenons, que ce soit les biens matériels ou la santé spirituelle ainsi que la santé physique. Tout ce que vous avez, Dieu vous l'a donné afin que vous puissiez partager avec les autres. C'est une grâce que Dieu vous a accordée. Si vous avez la santé, des richesses, la jeunesse, du talent ou des dons, Dieu veut que vous mettiez cela au service des autres. Tout cela découle de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Cela est vrai de la souffrance aussi. Si vous souffrez pour le Seigneur, c'est lui qui l'a permis. L'adversité nous garde sur le bon chemin. Un chrétien voyageait à Vienne, en Autriche. Il faisait une tournée touristique en autobus. Les touristes rencontrèrent un troupeau de moutons et l'autobus dut s'arrêter pour le laisser passer. L'homme, assis à côté du chrétien, était ennuyé d'avoir à attendre parce que seulement deux chiens bergers menaient le troupeau. Le chrétien se tourna vers son ami irrité et lui dit « Sais-tu le nom de ces deux chiens ?»«
Non, » répondit l'homme, « je ne le sais pas. »«
Est-ce que toi tu le sais ?»«
Je pense que oui. »«
Quels sont-ils ?»«
L'un se nomme Bonheur, »
répondit le chrétien, « et l'autre Grâce. »
Comment peux-tu savoir cela?
Bien, dit le chrétien, David a mentionné au psaume 23, verset 6,
« Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. »
Vous ne pensez peut-être pas qu'avoir deux chiens qui jappent après vous soit le bonheur ou une grâce, mais ceux-ci vous gardent sur le chemin étroit et vous empêchent de vous en détourner.
Chers amis, c'est un acte de grâce et de miséricorde de la part de Dieu. C'est à cela que servent les épreuves et les difficultés. Il est le Père des miséricordes.
Voici ce que dit le pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, en enseignant ce chapitre. Je cite.
« Maintenant, je vais dire quelque chose de très personnel. J'ai eu plusieurs rechutes avec mon cancer. Et je vais être franc avec vous. Les médecins m'avaient donné peu d'espoir. Mais Dieu m'en a délivré, et c'est étonnant. Ce monstre peut se manifester de nouveau à tout moment, mais j'ai confiance que Dieu m'en délivrera. J'ai reçu une lettre d'un homme qui me semblait arrogant. Il a écrit, « Dieu m'a dit que vous guéririez, donc vous n'avez plus besoin de vous inquiéter au sujet de ce cancer. »
Je me suis toujours demandé, puisque c'est moi qui avais le cancer, pourquoi Dieu le lui a dit plutôt qu'à moi? Bien, je m'appuie sur le Seigneur. Tout comme Paul, je puis affirmer que j'ai confiance qu'il me délivrera. Nous ne pouvons pas être arrogants avec Dieu, mais nous devons venir à lui avec humilité. » Fin de la citation.
Paul marche humblement, mais il peut dire avec une très grande assurance, « Il m'a sauvé de la mort. » De plus, il peut dire, « Présentement, il me délivre des épreuves. »
Ensuite, sans aucune vantardise de sa part, il peut dire,
« Nous espérons qu'il nous délivrera encore. »
Paul ne savait pas si Dieu le ferait, mais il le croyait. Donc, c'est sur ce fondement que Paul pouvait se réjouir que Dieu lui permette de proclamer l'Évangile.
Paul invite les croyants à prier pour lui et son équipe missionnaire, au verset 11.
« Vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Dieu veut que nous prions pour ses ouvriers dans l'œuvre. J'ai souvent fait appel aux prières des croyants. Je remercie Dieu pour tous ceux qui ont prié pour moi au cours des années. La prière d'intercession est très efficace. Sinon, Paul n'aurait jamais tant sollicité de prières. Il demandait continuellement à ses frères dans la foi de prier pour lui. Sa confiance dans la délivrance des afflictions ne reposait pas seulement sur ses expériences passées, au cours desquelles Dieu l'avait délivré d'afflictions, mais aussi sur la prière des chrétiens. Lorsque les chrétiens prient pour nous, notre délivrance devient pour eux un sujet de réjouissance et de louange pour tous. Le combat fut celui de ceux qui ont prié aussi bien que le nôtre. La prière pour les frères est donc un encouragement puissant à la communion fraternelle. Cependant, Dieu permet que nous ayons des épreuves afin que nous puissions en consoler d'autres. Nos souffrances servent au bien des autres. Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Un jour, un pasteur qui avait perdu un enfant en bas âge visitait un couple qu'on lui avait recommandé. Lorsqu'il se présenta chez ce couple, il apprit qu'il venait de perdre un enfant. Ce pasteur put les consoler, car il avait passé par le même chemin. Ce couple lui prêta une oreille attentive, car il pouvait compatir à leur douleur. Écoutez de nouveau ce que Paul dit au verset 8. « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Vous rappelez-vous la fable du vent et du soleil? Le vent et le soleil prétendaient tous deux être le plus fort. Un homme marchait le long d'un chemin. Le vent dit qu'il pouvait lui ôter son manteau et se mit à souffler très fort. Mais l'homme s'enveloppa de son manteau en le resserrant. Plus le vent soufflait, plus l'homme resserrait son manteau.
Alors, le soleil dit au vent de le laisser faire. Il se mit à réchauffer l'homme doucement avec ses rayons. L'homme ôta alors son manteau. Le soleil accomplit ce que le vent ne put faire. En général, le vent de l'adversité ne nous détache pas de Dieu. Lorsque le vent souffle trop fort et que tout commence à mal aller, alors nous nous tournons vers notre Père céleste afin qu'il nous console. C'est plutôt lorsque tout va bien que nous sommes en danger. Le soleil brille et les chrétiens ont la vie facile. Ils ôtent leurs vêtements de justice pratique, c'est-à-dire, ils font moins attention au péché dans leur vie. Ils font des compromis avec le monde. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. La souffrance nous enseigne à marcher dans la sainteté et la pureté. Paul affirme qu'il peut se réjouir à cause du témoignage qui se dégage de sa façon de vivre et de sa conduite. Il indique clairement que ce n'est pas le fruit d'une sagesse charnelle. Mes amis, nous ne sommes pas un bon témoignage à cause de notre sagesse. Si nous avons été des témoins de Dieu auprès des autres, c'est parce que nous nous sommes conduits avec sainteté et pureté devant Dieu. Paul affirme que, par la grâce de Dieu, la souffrance a produit ce résultat dans sa vie. La souffrance est une grâce de Dieu, car elle produit des fruits et des qualités dans notre vie, et ce, afin que nous consolions les autres. Voici la traduction libre d'un poème qui traite du but de la souffrance. J'avais besoin de calme, il m'a conduit à l'écart, à l'ombre où il a pu me parler. Loin de tout le remue-ménage qui m'environnait, lorsque je m'affairais et m'inquiétais alors que j'étais fort et actif, j'avais besoin du calme, même si je me suis d'abord rebellé. Mais gentiment, il a soutenu ma croix, et il me parla doucement de choses spirituelles. Quoique mon corps fût faible, mon esprit s'envola vers des hauteurs inespérées lorsque je me surmenais. Il m'a tant aimé, donc il m'a conduit à l'écart. J'avais besoin du repos. Mon lit ne fut pas une prison, mais une vallée riche en bénédictions. Un endroit pour m'enrichir et me réfugier en Jésus. J'avais besoin de repos et il m'a conduit à l'écart. Mes amis, si vous êtes au lit en éprouvant de la douleur, et que vous êtes dans la volonté de Dieu, ce lit peut devenir pour vous un message plus efficace que celui du meilleur prédicateur. Oui, chers amis, un lit d'hôpital peut nous apprendre à nous appuyer uniquement sur Dieu. Paul a dû apprendre cette leçon. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Revenons à notre texte de 2 Corinthiens chapitre 1, versets 13 à 15. « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. » Paul affirme, « N'ai-je pas été une bénédiction pour vous lors de ma première visite? Je reviens, et je veux encore vous être une bénédiction. » Versets 16 et 17. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Paul espérait se rendre à Corinthe, mais il n'avait pas encore pu le faire. Ses ennemis à Corinthe l'accusaient de ne pas tenir parole ou de parler trop vite. Ils ont mis en doute sa sincérité. Paul affirme qu'il était sincère. Il dit que lorsqu'il dit oui, cela signifie oui, et lorsqu'il dit non, c'est non. Voyez comme un cœur méchant peut facilement accuser quelqu'un pour un petit détail et tout exagérer. Si Paul n'était pas fiable en ce qui concerne ses engagements, la prochaine étape consistait à mettre en doute la fiabilité de son enseignement. C'est pourquoi Paul doit affirmer qu'il est une personne fiable, mais qu'il a retardé sa visite à Corinthe afin de les épargner. Il ne voulait pas venir pour les discipliner, mais pour se réjouir avec eux. Les chrétiens devraient respecter leurs engagements. Les croyants devraient agir ainsi aujourd'hui. Ils ne devraient pas prendre des engagements à la légère dans le monde des affaires, ainsi que dans leur vie personnelle. Nous avons besoin de chrétiens qui respectent leurs engagements, que leur oui soit oui et que leur non soit non. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Paul n'a pas dit qu'il viendrait pour ensuite changer d'idée comme s'il était inconstant au volage. Pourquoi? Parce qu'il était guidé par Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais si oui qui a été en lui. L'évangile glorieux qu'ont prêché Paul et son équipe missionnaire n'était que oui. L'évangile est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous. Nous n'avons pas seulement un Dieu fidèle, mais aussi un Seigneur Jésus-Christ fiable et sûr, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'Amen par lui prononcé par nous à la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, tout est positif. Voyez-vous, Dieu vous veut du bien. Il va vous utiliser pour faire du bien aux autres. Si vous voulez vivre la pleine réalisation de tout le projet de Dieu pour votre vie, il vous faut Jésus-Christ, car c'est lui le oui, c'est lui l'Amen. En lui, tout est accompli. Vous voulez bénéficier de ce que Dieu vous offre présentement? Que votre vie soit en Jésus-Christ. Combien de personnes me disent, « Régent, Dieu n'exauce pas mes prières. » Pourquoi? Parce que ce sont celles qui vont être faites en la personne de Jésus-Christ. Écoutez cette vérité de l'Évangile de Jean chapitre 14, verset 12. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voilà la vie qui vaut la peine d'être vécue, celle qui est en Jésus-Christ. Avez-vous Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que votre vie est en lui? C'est la seule façon que vos prières peuvent être exaucées. Il faut que vous soyez dans la volonté de Dieu, en la personne de Jésus. Et cela se fait uniquement par la foi. Vous lirez le contexte à nouveau de cette épître de Paul aux Corinthiens, ou l'Évangile selon Jean, ou à divers endroits dans la Bible. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est celui qui nous rémunère, en la personne de Jésus. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10 à chapitre 2 verset 13.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, n'est-ce pas merveilleux de voir qu'un croyant ne souffre jamais en vain? On a pu le constater aujourd'hui à travers tout ce bon enseignement qu'on a reçu par la bouche du pasteur Régent Joly. Une chose qui m'a particulièrement touchée, c'est le fait que la souffrance nous amène à pouvoir réellement consoler et encourager les autres qui souffrent. Régent a mentionné les versets 5 et 6 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au premier chapitre. Permettez-moi de les relire. C'est tellement encourageant. Paul dit donc, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Je connais une personne, une croyante, une très bonne chrétienne, qui souffre beaucoup de la part de son mari non-croyant. Cet homme a fait ce qui nous a paru être une vraie profession de foi il y a plusieurs années. Et 2 ans plus tard, notre sœur en Jésus-Christ est tombée amoureuse de lui et l'a épousé. Mais dès les premiers mois de leur mariage, l'homme a abandonné les voies de Dieu. Il s'est mis à faire des abus d'alcool et il s'est mis à abuser notre sœur verbalement et même très méchamment. Elle endure ceci depuis environ 12 ans, mais elle demeure attachée au Seigneur. Et elle grandit en connaissance de la parole de Dieu, en foi et en amour, à un point tel qu'elle a un énorme ministère de consolation au sein de l'Église. Vous seriez épatés de voir tous ceux que Dieu encourage et console à travers elle. Elle a beaucoup de compassion. Elle sait écouter ceux qui souffrent avec empathie, avec sympathie, avec amour. Dieu se sert d'elle d'une manière gigantesque pour faire du bien à son Église. Gloire à Dieu! Mes frères, mes sœurs, je crois que nous avons tous pu constater aujourd'hui que la souffrance, les épreuves, l'adversité sont utiles pour nous et même nécessaires afin qu'on puisse consoler les autres qui souffrent autour de nous et afin qu'on puisse demeurer fidèle à notre grand Dieu merveilleux qui éprouve tous ceux qui l'aiment. Et aussi, comme Régent l'a si bien mentionné aujourd'hui, il n'y a aucun danger que les épreuves nous détachent de notre Dieu quand nous sommes de vrais croyants, des gens qui ont placé leur confiance en Jésus seul pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, sens-tu que tu souffres en vain? Es-tu découragé de la vie? Es-tu sur un lit d'hôpital? Es-tu en instance de divorce? Es-tu seul? Es-tu au désespoir? Écoute ce que Jésus te dit en ce moment. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre la porte et laisse-moi entrer. Je veux faire de toi un enfant de Dieu.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épaté. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.